Maintenant, le monde est plein de gens savants, et m'est avis que ni au temps de Platon, ni de Cicéron, n'était telle commodité d'études qu'on y voit maintenant. Rabelais, 1532. Ans d'histoire. Du règne de François Ier, on connaît tous la date la plus célèbre de l'histoire de France. Mais 1515, ce n'est pas seulement l'année de la bataille de Marignan, c'est aussi le début d'un long règne de 32 ans, pendant lequel la France est sortie du Moyen-Âge pour entrer dans les temps modernes. Le règne de François Ier, qui ne fut pas seulement un roi chevalier réputé pour sa bravoure et ses conquêtes féminines, mais aussi celui qui a été, avec Louis XIV, le plus grand mécène de l'Ancien Régime. Non seulement parce qu'il aimait les arts et les lettres, mais, comme tous les princes de la Renaissance, pour affirmer la puissance de son pays par d'autres moyens que les armes. C'est pourquoi, en 1520, François Ier avait voulu éblouir le roi d'Angleterre, qui se prétendait encore roi de France, en le recevant près de Calais, dans un village de tentes décoré si somptueusement qu'on l'avait appelé le camp du drap d'or.
Aux dernières nouvelles, tout est fin prêt pour le sommet. Il aura lieu dans le Pas-de-Calais, en territoire anglais, dans une vallée connue sous le nom de Val Doré. Plus de 1000 ouvriers ont construit un palais pour votre majesté, appelé le Palais des Illusions. Certains affirment que c'est la 8e merveille du monde.
Oyez, oyez! Moi, Henri, par la grâce de Dieu, roi d'Angleterre, d'Irlande et de France, déclare...
Plus un mot. Pendant cette rencontre, je serai simplement Henri, roi d'Angleterre.
Je serai, quant à moi, François, roi de France et de Bourgogne.
Gonzague Saint-Brice, bonjour.
Bonjour.
Alors vous entendez une pavane de Claude Gervaise qui a été composée en 1520 pour cette rencontre solennelle entre le roi d'Angleterre, Henri VIII, et François Ier dans ce qu'on a appelé le camp du drap d'or. Dans un livre que vous venez de publier, François Ier et la Renaissance, vous dites que ce camp, c'était un chef-d'œuvre de la Renaissance, que c'était aussi la diplomatie du drap d'or.
Oui, parce que nous sommes dans une sorte de politique spectacle avec des princes d'une qualité culturelle exceptionnelle, que ce soit Henri VIII d'Angleterre, qui est à la fois un athlète, qui est à la fois un archer émérite, qui est un cavalier sans précédent, mais qui est aussi un garçon qui, très jeune, va écrire un traité de théologie. Il a joué un rôle immense dans la culture. C'est lui qui va donner à Erasme, Henri VIII, une chaire à Cambridge et qui va nommer John Colet prédicateur à la cour. Et face à lui, le fastueux François Ier, qui a reçu lui aussi une formation exceptionnelle, qui... ne passe jamais un instant sans être captivé par la culture, puisqu'il ne veut jamais déjeuner idiot. Il a toujours à sa table quelqu'un qui peut lui enseigner quelque chose, que ce soit le poète Clément Marot, que ce soit le linguiste Guillaume Budé, avec lequel il va faire des cavalcades dans la forêt d'Amboise. Et aussi, plus tard, il va aller par le souterrain secret entre le château royal d'Amboise et le Clos Lucé, écouter son maître, Léonard de Vinci, qu'il appelle Padre.
Alors cette entrevue, il faut le rappeler, au camp du drap d'or, près de Calais, était destinée à nouer une alliance entre ces deux mécènes, qui étaient Henri VIII et François Ier, contre celui qui venait d'être élu empereur, Charles Quint, qui menaçait la France, puisqu'il était à la fois souverain en Espagne, en Autriche, enfin en Allemagne, et même dans une partie de l'Italie. Et toute la politique de François Ier va consister justement à essayer de desserrer l'étau que représente Charles Quint, toute sa politique pendant tout son règne pratiquement.
Vous avez tout à fait raison, et vous venez de mettre en place ce jeu de quatre personnes qui sont Henri VIII, Donc François Ier tente de devenir son ami et son allié. Et de l'autre côté, Charles Quint, qui est duc de Brabant à l'âge de 15 ans, qui est l'empereur et qui a été élu par les grands électeurs, poste que François Ier désirait aussi. Mais François Ier a payé avant les grands électeurs, tandis que Charles Quint, financé par les banquiers fugaires, leur a dit « je vous paierai après que je sois élu ». Donc c'est vrai que François Ier a pour principal adversaire ce Charles Quint, qui lui aussi est fort intéressant. C'est un homme qui ne se déplace jamais sans sa bibliothèque et ses 10 tableaux de Titien. Et aussi, plus tard, François Ier va essayer de prendre en étau le grand ennemi, Charles Quint, avec cette alliance, avec Soliman le Magnifique,
Turc, oui, c'est-à-dire un musulman. Ça, évidemment, ça a beaucoup choqué toute l'Europe, hein, qu'un prince chrétien fasse ça.
Tout à fait, vous avez raison, ça a été considéré comme l'alliance impie entre le commandeur des croyants et le roi très chrétien. Et encore une fois, Soliman le Magnifique, immensément cultivé, auteur de poèmes comme François Ier et bijoutier d'occasion.
Alors si vous évoquez beaucoup la Renaissance, c'est parce que François Ier la découvre, c'était 5 ans avant le camp du Drap d'Or. Il a fait une campagne d'Italie sur les traces de ses prédécesseurs, Louis XII, qui avait déjà fait la guerre en Italie. François Ier y va, il remporte la victoire de Marignan, hein, 1515, tout le monde connaît. Ce que l'on connaît moins, c'est que là-bas, il est ébloui par la Renaissance italienne, la Renaissance qui a commencé en Italie déjà bien avant. Et là, ça le fascine complètement.
Oui, alors la Renaissance italienne, d'abord, c'est une ambition française qui existe depuis les deux règnes qui l'ont précédée, que ça soit Charles VIII ou que ça soit Louis XII. Et Louis XII, déjà, quand il voit le mur de la Seine dans le couvent de Sainte-Marie-des-Grâces de Léonard de Vinci, il a envie de découper le mur et de le ramener en France, ce que François Ier évoquera lui aussi. Donc, l'éblouissement de l'Italie, vous avez parlé du camp du Drap d'Or avec cet extraordinaire, qui était aussi une manifestation culturelle, parce que pendant le camp du Drap d'Or, il y a eu 48 heures de festin avec 248 mets, il y a eu aussi des joutes de musique, et tout ça en Italie, à cause de l'ancêtre Valentine Visconti, les rois de France se considèrent comme propriétaires de l'Italie.
En tout cas, quand il revient en France après sa victoire à Marignan, eh bien, ébloui par les merveilles qu'il a découvertes en Italie, eh bien, il revient avec beaucoup de chefs-d'œuvre, justement, dont l'œuvre d'un peintre qui incarne plus que d'autres la Renaissance italienne.
Apprêtez-vous à vous trouver devant le plus merveilleux des sourires. Je l'ai payé 12 000 livres à son auteur. Peu de femmes m'ont coûté aussi cher qu'elle. Elle a pour nom Mona Lisa. Mais nous l'appellerons, s'il vous plaît, la Joconde. Ah, Venise, Florence et Rome que j'adore, vous nous envoyez des splendeurs. J'attends encore deux grands Botticelli qui viennent de Padoue et de Saint-Jean de Donato. Vous comprendrez bientôt pourquoi vous raffolez de toutes ces merveilles.
Nous le savons déjà, parce qu'elles nous plaisent.
Non, parce qu'elles vous manquaient. Prenez ce verre. Construisez autour un palais merveilleux, qui soit en harmonie avec sa couleur et sa forme. Et vous verrez avant longtemps que le gothique a fait son temps.
Et oui, avec François Ier, le gothique et le Moyen-Âge avaient fait leur temps. C'était le début de la Renaissance en France, avec ce retour de François Ier, retour de Marignan, hein, et qui vient avec dans ses bagages la Joconde, Léonard de Vinci qui a fini sa vie en France.
Tout à fait. Léonard de Vinci, qui avait exaspéré la plupart de ses mécènes, il ne terminait jamais ses œuvres. Son dernier mécène était le pape, qui l'avait méprisé, et tout d'un coup, il rencontre ce François Ier à Bologne, un roi de 20 ans qui l'invite en France. Il fait un fabuleux voyage, il traverse les Alpes à dos de mulet, Léonard, avec dans une sacoche en cuir la Vierge Rocher, la Joconde, la Sainte-Anne. Et quand il arrive en France, à Amboise, il monte dans la tour Heurtaux du palais d'Amboise et déjà, il respire l'odeur des orangers qui ont été amenés avant lui par le jardiniste de Naples, Pacello. Donc tous les parfums de l'Italie sont là. Il compare le ciel de la Toscane à celui de la Touraine, Léonard. Et le roi lui dit « Fais ce que tu veux ». Il lui donne une pension de 700 écus d'or. Léonard a 60 ans. Il lui donne le manoir du Clou, de briques roses et de pierres de tuffeau immaculées. Et il lui dit « Fais ce que tu veux ». Mais attention, quand un roi vous dit « Fais ce que tu veux », il faut se méfier car il va vous demander quelque chose. C'est ce que fait François avec Léonard. « Tu dois bâtir pour moi le plus beau des châteaux ». Et Léonard va dessiner à Romorantin, la nouvelle Rome, au centre de la Sologne, un château fabuleux. Toutes les allées sont en eau comme à Venise. Les portes s'ouvrent devant vous comme dans les aéroports. Il y a même la téléphonie entre les appartements. On s'ouvre dans un cornet, on parle, on écoute. Mais la malaria attaque les ouvriers dans les marais malsains de la Sologne et le château disparaît. C'est fou ce que Léonard, pendant ses 3 ans en France, va faire pour le roi, metteur en scène de fêtes. Il va faire ce fameux lion mécanique. Un soir, des danses, des pavanes, une fête organisée par Léonard. Les ambassadeurs de Venise nous racontent, on y voyait comme en plein jour des milliers de flambeaux. Tout va bien. Le roi regarde les femmes, pourpoint immaculé. Il mesure près de 2 mètres de haut. Et tout d'un coup, incident à la cour, un lion, sans doute échappé des fossés d'Amboise, s'avance vers la fête. Panique généralisée, les femmes se précipitent dans les mâchicoulis, dans les galeries. Le lion avance auprès du roi, lève sa lourde gueule et darde le roi avec ses yeux dorés. Le roi écarte les gardes, prend son couteau de chasse et se prépare à attaquer seul le lion. Et là, le lion éclate en deux. De son dos jaillit une gerbe de fleurs de lys qui tombe au pied du roi. C'était un automate de Léonard de Vinci.
Vous rappelez, Gonzague Saint-Brice, aussi le rôle qu'ont joué beaucoup de Français dans cet engouement de François Ier pour la Renaissance italienne. Il y a Guillaume Budé, hein, qui était un grand humaniste. Il y a aussi les femmes qui l'entourent. Il y a sa mère, la mère de François Ier, Louise de Savoie. Sa sœur aînée aussi, qui était un grand écrivain, Marguerite de Navarre, la grand-mère d'Henri IV, et qui tenait une cour, justement, en Navarre, dans laquelle on trouvait des gens comme Clément Marot, comme Lefèvre d'Étaples, comme Rabelais, qui a dédié à Marguerite de Navarre son tiers-livre. Elle-même était d'ailleurs écrivain. Elle avait écrit l'Heptaméron. C'est une des rares femmes écrivains de l'époque, une des premières d'ailleurs dans l'histoire de la littérature française. Et puis il y avait donc tous ces artistes, vous venez de le dire, que François Ier avait fait venir d'Italie en France.
Le signor de Vinci a été invité au palais en tant qu'artiste dédié à la cour.
Vous voyez cela, mon bon frère. En presque tout, nous, Français, nous nous distinguons. Nous avons les plus grands peintres, les plus grands musiciens et les plus grands poètes. Pour l'essentiel, au demeurant, ils vivent à ma cour. Dieu merci. Nous avons aussi les plus grands philosophes, inventeurs, architectes.
C'est très simple.
Et bien sûr, nous avons les plus belles femmes aussi. Vous en convenez, n'est-ce pas ?
Quand je connus en ma pensée que n'avais nul bien à te voir, trop je pensais être offensé, ne craignant à l'amour prévoir, alors tu me fais à savoir, la flamme en toi y a commencé, dont notre amour par seul devoir a été récompensé. Vous savez de qui c'est ce texte,
oui,
Gonzague Saint-Brice ?
Du roi en personne.
François Ier. Il n'était pas seulement un protecteur des arts, des lettres, il était lui-même poète.
Il était un véritable artiste, il a écrit énormément de poèmes et j'en n'est donné beaucoup dans ce livre, car je tiens à le faire savoir. Et aussi, il était un dessinateur de châteaux. Et entouré par des femmes exceptionnelles, toutes des artistes, que ce soit sa mère, Louise de Savoie, vous avez parlé de Marguerite de Navarre, c'est les 550 ans de l'apparition de ce chef-d'œuvre de l'Heptaméron, entouré des plus grands artistes, puisqu'il défend Rabelais contre la Sorbonne, et aussi même ses amantes, que ce soit Françoise de Foix, comtesse de Chateaubriand, est extrêmement belle, mais surtout très lettrée. Et ensuite, celle qui va lui succéder, Anne de Pisseleu, duchesse des Tempes, qui est fort cultivée.
Vous avez évoqué, Gonzague Saint-Brice, son goût pour les châteaux. Alors si on retient quelque chose de la Renaissance française avec François Ier, ce sont ces châteaux, soit parce qu'il apporte à des châteaux anciens une touche italienne, c'est le cas de Blois, soit parce qu'il les construit de toutes pièces, ou il les fait construire de toutes pièces. Il y en a un qui est extraordinaire, qui est absolument magnifique, où il n'a vécu pourtant qu'une quarantaine de jours à peine, vous le dites, c'est le château de Chambord. Et là, comme pour le camp du Drap d'Or, que fait François Ier ? Il le fait au moins autant pour lui-même que pour épater Charles Quint. La façon dont Charles Quint, vous la décrivez, découvre le château de Chambord est absolument fabuleuse.
Oui, car Charles Quint a demandé à François Ier de traverser la France pour aller mater les Gandois. Et François Ier, qui a été le prisonnier de Charles Quint, le vaincu de Charles Quint, d'un homme plus cynique, plus rusé que lui, eh bien, il va gagner la bataille de l'image, il va gagner... C'est un roi de la culture et de la communication. Et qu'est-ce qu'il fait pour épater Charles Quint? Il l'emmène dans une chasse en Sologne. Et quand il arrive devant un endroit qui existe encore, un étang, un marais, le marais de la Faisanderie, descente de cheval pour satisfaire un besoin naturel. Et à ce moment-là, Charles Quint lève les yeux naturellement vers le ciel. Qu'est-ce qu'il voit? Des coupoles orientales, des ardoises bleues dans l'infini. Qu'est-ce que c'est? Il se retourne vers François Ier, qui lui dit « Ah, vous vous intéressez à ma petite demeure, je vais vous la montrer. » Et quand Charles Quint prend la mesure de ce château de Chambord, bâti d'ailleurs après les plans de Romorantin, dont Romorantin est le brouillon du chef-d'œuvre de Chambord, il dit « J'ai vu le résumé de ce que peut faire l'industrie humaine. »
Et c'était ce château extraordinaire où il a peu vécu. Alors, ce qui est amusant, c'est que ces châteaux de la Loire, en fait, c'était le lieu où se déplaçait la cour. Mais petit à petit, elle va venir se rapprocher de Paris. Autre château très important, œuvre de François Ier, c'est le château de Fontainebleau, Fontainebello, hein, c'est le lieu dit. Et puis alors, on l'oublie toujours, le Louvre, un château médiéval fondé par Philippe Auguste, dont on ne voit plus rien d'ailleurs de ce château médiéval, puisqu'il a été mis au goût de la Renaissance par François Ier. C'est le château, d'ailleurs, la résidence principale du roi. Le roi, désormais, va de plus en plus souvent régner à Paris ou à côté de Paris, à Fontainebleau.
Vous avez parfaitement raison. Après la captivité de Madrid et après la défaite de Pavie, puis la captivité de Madrid...
Non, il faut le rappeler, après cette défaite de Pavie, il est prisonnier, François Ier.
Absolument. Et le roi va revenir et, au fond, faire une couronne de châteaux dans les forêts qui cernent la capitale. Chose extraordinaire, le château de Madrid, que vous pouvez passer avenue Maurice Barrès à Neuilly, c'est là qu'il s'élevait. Le château de Madrid dans la forêt de Boulogne, c'est-à-dire dans le bois de Boulogne, avec des céramiques de couleur, des faïences scintillantes, des ouvertures à l'italienne, des loggias. Ce château qui a fini sous Napoléon III, mais qui a existé longtemps. Et puis le château de Folembray, bien sûr, le château de Fontainebleau, qui nous apprend que les rois avaient une hygiène extraordinaire, se lavaient beaucoup avec du lait d'ânesse, François Ier. Même dans les bains, dans l'appartement des bains de Fontainebleau, François Ier faisait venir des chefs-d'œuvre, des toiles, des peintures extraordinaires, si bien que quand Henri IV en prend possession, il est obligé de se débarrasser de ces toiles pourries par la contemplation et l'humidité.
Alors des toiles, il y en a aussi, mais des peintures, hein, celles que ont confiées des deux peintres officiels auxquels ont confié justement les décorations de ces châteaux, c'est-à-dire Jean et François Clouet.
Clouet, est-ce que vous savez comment sont les jambes de mon cousin le roi d'Angleterre Henri VIII?
Non, je l'ignore, Majesté.
Certes, our brother of France is no ill-favored man. But we deem his legs not to be so handsome as our own.
Il est convaincu qu'elles sont plus belles que les miennes. J'en doute fort, bien qu'il soit un assez bel homme. Vous travaillez, Clouet?
Oui, sire, je travaille.
Vous me donnez l'impression de quelqu'un qui reste immobile, figé devant son travail.
Immobile, seigneur? Si votre majesté pouvait l'être un peu plus, je le serais bien moins.
Seriez-vous jaloux du Titien?
Titien?
Qui fait en ce moment mon portrait à Venise.
À Venise?
Oui, je lui fais parvenir une médaille ressemblante et le plus somptueux de mes costumes par le cardinal de Lorraine, qui est en outre chargé de lui indiquer la couleur exacte de mes yeux.
Et c'est une danse de l'époque de François Ier, le tordion. Hein. Alors vous dites, Gonzague Saint-Brice, que la danse joue un rôle essentiel aussi dans cette renaissance française venue d'Italie, parce que vous évoquez par exemple la pavane qui vient de Padoue, hein, qui veut dire se montrer comme un paon. Hein. Mais la danse vraiment joue un rôle très important dans cette renaissance française.
Oui, c'est le siècle de la danse, c'est la pavane, c'est la gaillarde, c'est le branle. Et puis aussi, c'est le fait que tout ça est diffusé, descend dans les classes de la bourgeoisie, dans les familles, parce que, à cause des Vénitiens dont vient de parler le roi de François Ier, parce que la polyphonie est arrivée d'Italie avec Ottaviano Petrucci. C'est un imprimeur de Venise qui va donner les partitions de polyphonie. Nous avons aussi des compositeurs extraordinaires comme Jeannequin, qui a fait la première musique au synthé, si on veut, la musique au synthétiseur. Il a fait une partition de la bataille de Marignan où on entend les charges de cavalerie, on entend les coups d'épée, les coups d'estoc sur les armures, le cri des blessés. Et là aussi va naître quelque chose de très populaire que nous connaissons ici très bien à France Inter, qui est la chanson française. Alors la chanson française commence sous la Renaissance, sous le nom d'une chanson parisienne. On l'appelle la chanson parisienne. Donc c'est la première fois qu'avec la musique, on se met à chanter.
Et une musique qui accompagne les paroles de quelques grands écrivains de François Ier, du Bellay, Clément Marot ou Pierre de Ronsard. Amour, amour, donne-moi paix ou trêve, c'est une chanson, non pas de François Ier, comme celle qu'on a entendue, mais c'est une très belle chanson, écrite par Pierre Ronsard. Alors, Ronsard, c'est la fin du règne de François Ier, mais marqué justement par une pléiade de grands écrivains qu'il a protégés. Il y a Rabelais, par exemple, notamment, du Bellay.
François Rabelais, qui est né la même année que François Ier, qui porte le même prénom. Et ils se sont rencontrés. François Ier a défendu Rabelais contre la Sorbonne. Et puis Guillaume Budet, qui a à la fois créé le cabinet du Livre, qui a créé le Collège de France.
Le cabinet du Livre, il faut le rappeler, c'est quelque chose que tous les écrivains connaissent. Enfin, d'ailleurs, que tous les journalistes aussi. C'est le dépôt légal, tout simplement.
Voilà, qui fait que chaque livre qui doit paraître doit être répertorié. Donc, c'est les débuts de la Bibliothèque nationale. Et puis, bien sûr, il y a des choses extraordinaires sous la Renaissance. Dans ce livre, j'ai voulu raconter la vie horizontale de François Ier toute sa vie, mais j'ai voulu aussi raconter la vie verticale de la Renaissance. À la fin de chaque chapitre, je raconte quelque chose qui s'est passé et qu'on ne sait pas. Par exemple, la rencontre de Pierre de Ronsard autour d'un brochet au beurre blanc sur la Loire avec du Bellay. Et donc, ils vont faire d'abord la brigade, puis la pléiade. Et ces deux garçons ont quelque chose de commun. C'est qu'ils sont un peu durs d'oreilles. C'est peut-être pourquoi ils s'entendaient si bien.
Carrément sourd, hein, même pour ce qui concerne Ronsard. C'est pour ça que c'est amusant d'avoir entendu de la musique, justement, sur ces paroles. Il y a aussi quelque chose qui est considérable. Vous l'avez évoqué, la création du Collège de France. La défense de la langue française, l'édit de Villers-Cotterêts, c'est au fond, il institutionnalise une langue qui ne l'était pas encore dans un pays où on parlait des quantités de langues différentes.
Tout tout à fait.
Cotterêts, c'est l'obligation de d'écrire en français tous les textes officiels.
Absolument, tous les textes des paroisses de naissance qui étaient écrits auparavant en latin. Donc c'est la naissance de l'unité de la langue, de la France, par la langue, par ce roi de la culture qui a beaucoup travaillé. Car on pense que François Ier s'est beaucoup amusé, certainement. Mais il faut quand même dire la vérité, c'est qu'en 32 ans de règne, il a fait 1000 édits par an. Et il y en a un très original que tout le monde avait oublié, que j'ai retrouvé, l'édit de Château-Régnard, qui, pour soulager la fiscalité que François Ier installe, invente la loterie nationale.
Beaucoup de choses qui apparaissent sous ce règne. Rôle essentiel aussi dans la Renaissance en général, en France en particulier, parce qu'il a permis son développement, elle existait déjà, c'est l'imprimerie.
Alors là, le mouvement de l'imprimerie, je pense qu'aujourd'hui, sans le savoir, dans une période de crise, nous vivons une deuxième renaissance, une nouvelle renaissance. Ce que l'imprimerie a apporté à la France du 16e, c'est que l'Internet apporte au monde du 21e siècle. Vous savez qu'un livre, avant la Renaissance, coûtait le prix d'une maison de 3 étages, car il était recopié par un moine, c'était un incunable à la main. Et à la fin de la Renaissance, il coûte le prix d'un livre. Et François Ier était l'ami des libraires, des imprimeurs, des éditeurs, des écrivains. Et il venait souvent à Paris visiter M. Estienne dans sa librairie. Et on disait, mais Maître Estienne n'a pas fini de revoir sa copie, sire. Et François Ier attendait. Pourtant, François Ier, c'est le premier monarque absolu qui se fait appeler « Votre Altesse » et qui prononce cette phrase reprise par Louis XIV, « Car cela est mon bon plaisir ».
Ce qui est important dans ce règne de 32 ans, Gonzague Saint-Brice, finalement, ce n'est pas tellement ce dont on parle le plus. Marignan, c'est une victoire, mais il y a eu beaucoup de défaites. Presque toute la politique extérieure de François Ier a été marquée par des siècles. C'est sa politique, qu'on dirait aujourd'hui, culturelle. C'est cette renaissance qu'il a apportée à la France. C'est peut-être ça l'essentiel de ce règne.
Vous avez tout à fait raison. Et c'est en cela que François Ier fait passer la France du Moyen-Âge à la France moderne. Il est le roi de l'aurore de la France. Il n'a pas gagné toutes les batailles politiques ou militaires, mais il a gagné la bataille de la culture et il a créé cette identité partagée dans la joie, dans le luxe, dans l'inspiration, dans la grandeur. Je rappellerai la phrase de Shakespeare, « N'ayez pas peur de la grandeur ».
Et c'est ce qu'a fait effectivement François Ier, en tout cas tel qu'on le retrouve dans votre livre, Gonzague Saint-Brice. François Ier qui est également à l'origine de la grandeur et aussi de la grandeur du pouvoir monarchique. Jamais il a été aussi grand, il le sera encore plus évidemment avec ses successeurs. Pour en savoir plus, je recommande donc la lecture de votre livre, François Ier et la Renaissance, qui a été publié aux éditions Télémaque. À lire aussi Éléonore d'Autriche, seconde épouse de François Ier, nous n'en avons pas parlé, hein, mais c'est un livre de Michel Combet, publié chez Pygmalion. Vous avez pu entendre des extraits de la série télévisée Les Tudors de Michael Hirst, qui est disponible en DVD, ainsi que des films Si Paris nous était compté et Les Perles de la Couronne de Sacha Guitry, édité par René Château Vidéo. Vous pouvez retrouver toutes ces références par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, la technique Rémi Quincé et Julien Chabassu, documentation Emmanuel Fournier, Clarisse Le Gardien et Franck Olivard, une réalisation de Anne Kobilac. Demain, dans notre émission, une histoire des ch'tis.